France Musique. Musicopolis. Mars 1694, Paris, Palais Royal. Depuis quelque temps, le bruit s'est répandu qu'Élisabeth Jacques de Laguerre allait faire représenter un nouvel opéra de sa composition, et les Parisiens sont dans l'attente. Le grand soir arrive le 15 mars 1694 à l'Académie Royale de Musique au Palais Royal. On joue son Céphale et Procris sur un livret de Joseph-François, duché de Vancy. L'ouvrage est une tragédie lyrique, comme il se doit, et commence, comme il se doit, par une ouverture à la française. Le volume des Frères Parfaits sur l'Académie Royale de Musique nous donne quelques détails sur la préparation de Céphale et Procris. Mademoiselle de Laguerre, nous dit l'opuscule, mit cet opéra en musique et pendant qu'elle y travaillait, tous les amis, tant en prose qu'en vers, la félicitaient sur son succès à venir. Enfin, cet opéra parut en 1694. Peu avant la création du 15 mars 1694, un correspondant écrit à Madame de Sévigné « Je suis très confiant sur le nouvel opéra de la petite Laguerre. J'en ai vu deux répétitions, il sera fort bon. » De talents réunis, écrivent les Frères Parfaits, faisait croire que personne n'était plus en état de travailler à la composition des opéras en musique que Mademoiselle Laguerre. Elle s'en flatta peut-être aussi, car elle accepta les paroles de Céphale et Procris que Duché, jeune alors et qui n'avait encore rien donné au public, lui offrit. Si les louanges prématurées assuraient le succès d'une pièce, jamais opéra n'en aurait eu de semblable. Les noms de Duché et de Mademoiselle de Laguerre retentissaient par tout Paris. On tombait en extase aux répétitions de ce poème et malheur à ceux qui auraient osé dire qu'il fallait attendre le jugement du public. Ce jour arriva. Quel changement ! Il fut total et l'opéra expira à sa 5e ou 6e représentation. La tragédie lyrique, en cette fin de XVIIe siècle, est un instrument politique qui vise à ajouter à la gloire de Louis, 14e du nom, et de son État, car l'État, c'est lui. Comme il se doit donc, Céphale et Procris commence par un prologue pastoral qui célèbre le monarque. Pan et Flore nous exhortent « Rien ne doit retarder nos fêtes. Le désir de chanter le plus puissant des rois nous fit assembler dans ces bois. La gloire, asservie à ses lois, va couronner ses dernières conquêtes par ses nouveaux exploits. Rien ne peut échapper à sa sagesse extrême. Le vice est pour jamais à ses pieds abattu. »
La gloire asservie à ses lois va couronner ses dernières conquêtes parce que vos exploits ne sa sagesse extrême ne disait pour jamais
On remarque dans le prologue de Céphale et Procris le ton de vénération et de respect envers Louis XIV. On retrouvera le même dans l'adresse qu'Élisabeth Jacquet-Laguerre place en exergue de sa partition publiée la même année. « Sire, l'attention que par votre bonté singulière, votre majesté a daigné donner à quelques-unes de mes compositions de musique et l'approbation dont elle les a honorées plus d'une fois, m'ont donné le courage d'entreprendre celle-ci, la force de l'exécuter et la confiance de l'offrir à votre majesté. Si je n'ai pu, par le malheur de mon sort, employer ma vie à son service, ni par de grands talents travailler pour sa gloire, je me trouverai toujours très heureuse et assez distinguée d'en avoir cultivé un dès mon enfance, duquel au moins je puisse contribuer à son divertissement dans les courts intervalles de ses grandes et importantes occupations, et qui me donne l'avantage, en offrant à votre majesté de me tirer de la foule et de rendre public mon zèle ardent et respectueux pour sa personne sacrée, aussi bien que la profonde vénération avec laquelle j'ai l'honneur d'être, sire, de votre majesté, la très humble, très obéissante et très fidèle servante et sujette. Jacquet. La dédicace d'Élisabeth Jacquet-Laguerre à Louis XIV, en exergue de son opéra Céphale et Procris, nous donne quelques éléments sur cette compositrice. Outre le zèle ardent et respectueux et la profonde vénération qu'elle éprouve à l'égard de la personne sacrée du souverain, primo, le roi a déjà accordé de l'attention à certaines de ses compositions et il les a approuvées. Secondo, elle a cultivé dès son enfance un talent qui a contribué au divertissement de Sa Majesté. Dans la dédicace de son premier livre de pièces de clavecin, Élisabeth Jacquet-Laguerre, qui a alors 22 ans, écrit « Oui, sire, il me souvient que trouvant en moi, à l'âge de 5 ans, quelques dispositions pour le jeu de clavecin, vous ordonnâtes que l'on prît soin de m'y élever. J'ai vu couler mes plus tendres années dans une étude continuelle. Et de temps en temps présentée devant votre majesté, j'ai joui du plaisir de la voir favorablement attentive à mes faibles accords. Le bonheur de lui plaire m'a fait aller plus loin. Je me suis moi-même imposé une longue retraite chez mon père, où j'ai toujours été accoutumée, sire, à vous consacrer toutes mes veilles. » Élisabeth Jacquet de Laguerre a donc été présentée au roi toute petite. Elle a même passé quelques années à la cour, où on l'instruisait en même temps qu'elle était là pour divertir le roi ou sa favorite du moment, Madame de Montespan. Dans la dédicace de sa tragédie lyrique « Céphale et Procris », elle regrette, par le malheur de son sort, de n'avoir pas pu consacrer sa vie au service de Louis XIV. Catherine Sessac, dans son indispensable biographie de la compositrice, s'interroge sur ce malheur. Est-ce qu'il s'agit de son mariage qui l'aurait empêché de poursuivre sa carrière à la cour? En effet, la jeune femme s'est mariée en 1684 avec un organiste, Marin de Laguerre. Elle a alors ajouté le nom de son mari à son propre nom, Jacquet. Ou bien le malheur de son sort pourrait être tout simplement sa condition de femme, qui l'empêche d'être compositeur du roi, comme l'est Michel Richard de Lalande, ou même claveciniste du roi. La première qui aura ce titre sera Marguerite Antoinette Couperin, fille de François, en 1730. On en est loin. Après son premier livre de clavecin, Élisabeth Jacquet de Laguerre a fait représenter, vers 1691, un ballet intitulé « Les Jeux en l'honneur de la victoire », dans l'avertissement duquel elle déclare « Ce n'est pas d'aujourd'hui que des femmes ont donné au théâtre d'excellentes pièces de poésie qui ont eu un très grand succès. Mais jusqu'ici, nul n'a essayé de mettre tout un opéra en musique. » L'ouvrage a été perdu malheureusement, mais c'est certainement pour la jeune femme un premier pas vers l'Académie royale de musique. Et maintenant donc, revenons à cette soirée du 15 mars 1694, où a lieu la première de Céphale et Procris. Pourquoi l'ouvrage, qui est tellement attendu, tombe-t-il après 5 ou 6 représentations ?
Plus rude, lieux et
On ne peut que reconnaître la beauté de cet air de Procris, l'héroïne de l'opéra d'Elisabeth Jacquet de la Guerre. Opéra qui, je le précise, n'a pour le moment été enregistré qu'une seule fois. On aimerait que d'autres versions voient le jour. L'histoire est tirée principalement des métamorphoses d'Ovide. Procris, un nom féminin donc, fille de roi, est amoureuse de Céphale, nom masculin. Procris est promise à Céphale, ça tombe bien. Mais, il faut bien un mais pour tenir 5 actes sur le sujet, la déesse Aurore, elle aussi amoureuse de Céphale, fait tout pour faire capoter le mariage. Et donc, le roi, son père, annonce à la jeune fille dès la fin du premier acte que finalement, elle épousera Boré. Au début du deuxième acte, elle est désespérée, nous venons de l'entendre. Et Céphale ne l'est pas moins.
Le ciel m'en est flatté de la espérance. Que douce et grande rêve, hélas, 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 en sens irigoureux, doit-il tant d'amour rêver.
Il semble bien que la qualité de la musique ne soit pas en cause dans l'insuccès de Céphale et Procris d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, ni sa manière de mettre les mots en musique, ce à quoi elle s'attache avec beaucoup d'attention. Persuadée, écrit-elle, que des chants qui n'expriment point ce qu'on chante ne peuvent que déplaire aux vrais connaisseurs, c'est-à-dire à ceux dont le goût s'accorde avec le bon sens. Cherchons plus loin les raisons de la chute. Peut-être dans l'apparition d'un couple secondaire, les confidents des héros tragiques de l'histoire, Dorine et Arcas, qui flirtent de manière plus légère que leurs camarades. Dans l'opéra français, ce sont des choses qui ne se font pas. C'est bon pour les vieux opéras italiens, genre Cavalli, comme on a pu en entendre au début du règne de Louis XIV, où le mélange des genres est la loi. Mais dans la tragédie lyrique, telle que Lully l'a établie voici une vingtaine d'années, il faut rester dans le noble et tragique. Le badinage n'est pas de mise. Or, ici, Dorine fait marcher Arcas, l'assurant de son amour en précisant que ça ne va pas l'empêcher d'être volage.
Promets-moi de m'aimer sans cesse, de mes cruelles ennuis, tu finiras le coup.
Je t'aime, cher Arcas, j'approuve ta tendresse, mais peut-on s'assurer qu'on aimera toujours?
Quoi? Tu crois donc changer, cruelle, quel outrage!
Pour vivre sans chagrin, sans trouble, sans alarme, il faut ne s'engager jamais. Pour vivre sans chagrin, sans trouble, sans alarme, il faut ne s'engager jamais. Ne changeons jamais.
Ce mélange des genres dans le Céphale et Procris d'Elisabeth Jacquet de la Guerre est peut-être l'une des raisons pour lesquelles l'opéra n'a pas eu le succès escompté. En 1694, la figure tutélaire de Lully, mort seulement 7 ans auparavant, est encore écrasante et le public ne veut pas entendre parler de nouveautés ou d'écarts par rapport aux standards lullistes. Marc-Antoine Charpentier en a su quelque chose lui aussi à peine un an plus tôt avec son Médée, tombé sans rémission. Pour Céphale et Procris, le livret est peut-être à mettre en cause également. Sur un exemplaire de la partition conservée à la bibliothèque de l'Arsenal, on peut lire ces mots manuscrits « Les paroles en sont très faibles, le poème mal conduit ». Rappelons-nous que le livret, à cette époque, est considéré comme un élément primordial, à l'égal de la musique. La période puritaine que vit la France à ce moment-là n'a sans doute pas aidé à faire accepter cet ouvrage écrit par une femme. Il y a même une querelle sur la moralité du théâtre. L'un des acteurs de la polémique déclare qu'au théâtre, on ne réveille que des idées profanes, on ne travaille qu'à enchanter les âmes par les sens. « Je défie, conclut-il, qu'on trouve rien de plus fort dans le paganisme. » Malgré toutes les beautés de son opéra, malgré toutes ses danses entraînantes, le Céphale et Procris d'Elisabeth Jacquet de la Guerre est tombé. La jeune femme en conçoit-elle de l'amertume? En tout cas, ce sera sa dernière production dans le genre de la tragédie lyrique. Elle se cantonnera désormais à des formes plus intimes, sonates et cantates. Gageons que son époux, marin de la guerre, l'a pourtant soutenue dans l'épreuve, si l'on en croit l'anecdote rapportée par les frères Parfait. Le lendemain de la première, Monsieur de la Guerre, qui aimait et estimait tendrement son épouse, se trouvant avec plusieurs personnes qui critiquaient l'opéra nouveau, leur imposa silence en leur disant « Messieurs, je vous assure que l'opéra de ma femme est fort bon. Il n'y a que son ouverture qui est trop grande. » La fin de Céphale et Procris d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, Raphaël Kennedy soprano, Hakim Schulz haute contre, l'ensemble Musica Fiorita dirigé par Daniela Dolcis. Tout le programme, la réécouter, le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Marie Le Peintre pour le mixage, Claire Lagarde pour la réalisation, Françoise Monteil et Charlotte Landru-Chandès pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.